Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre sur Radion. Il est 11h passé de quelques minutes. Bienvenue parmi nous. Merci d'avoir noté ce nouveau rendez-vous, premier rendez-vous de l'année 2020. Comme un éternel renouvellement, une année vient de s'achever pour laisser place à une page blanche que je vous souhaite de remplir de rêves réalisés. Bonne et heureuse année 2020 à vous toutes et tous, ainsi qu'à vos proches. Merci de votre écoute, de votre fidélité régulière, aussi bien sur l'antenne de Radion le samedi à 11h, mais aussi sur le site d'archives de l'émission, le www.yannickpetit.fr. En cette année 2020, Wagon Livre aura le plaisir de fêter le 10e anniversaire de son existence sur l'antenne de votre radio locale. Et puis, toujours, puisque nous sommes au tout début d'une nouvelle année, clin d'œil à la littérature et à la poésie, je voudrais citer le poète surréaliste Paul Éluard, qui écrivait « Le passé est un œuf cassé, l'avenir est un œuf couvé ». Une belle phrase savoureuse qui, je trouve, s'inscrit parfaitement en ce début d'année pour nous offrir l'espérance, les joies et les enthousiasmes futurs. Aujourd'hui, nous vous proposons une petite rétrospective des grands moments de l'année 2019, émission au cours de laquelle nous pourrons réentendre la journaliste québécoise Denise Bombardier, l'historien Emmanuel de Varesquiel. Nous réentendrons aussi Robert Hennel pour son roman « Nous, les ultras ». Et puis, nous rendrons aussi hommage à un grand cycliste professionnel qui nous a quittés l'année dernière. Je l'avais rencontré en 2012 à Sens. Il a participé à 18 Paris-Nice, 18 Paris-Roubaix, 14 Tours de France, soit 56 000 km, et puis a signalé aussi un Tour de France au retentissement considérable en 1964, au cours duquel, effectivement, il a manqué encore la première place, et il nous l'expliquera dans cette interview que j'avais enregistrée avec lui en 2012. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien sûr de Raymond Poulidor. Dans un premier temps, place à la musique et nous nous retrouvons dans une poignée de minutes avec la journaliste québécoise Denise Bombardier.
Moi, je viens tout juste d'avoir mes 14 ans. Plus d'école, je suis devenu grand. Je te promets, je te gagne plein d'argent. Maman, je viens de fumer ma toute première week-end. Sur les fortifs où t'aimes pas que je traîne, je me serais tué plutôt que de refuser. Y'a pas que les mères qui font les enfants. La zone, la rue coule dans mon sang. Maman, j'aimerais chanter tout ce que ressentent les autres. Ta vie, la nôtre, m'en veux pas. Mais maintenant j'ai choisi. Les tours, c'est pas toujours des ghettos. pas de passion pour les oiseaux. Mais comme j'aimerais voir ça d'en haut. Je comprends mieux le regard des passants. Je vois pas comme eux, je pense tout en grand, en couleur et sur un écran blanc. Ah. Y a pas que les mères qui font les enfants. De la zone, la rue coule dans mon sang. Je sais pas grand chose sur les choses de l'amour, mais je me doute toujours. C'est pas moi qui choisis.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Comme nous vous le précisions au début de ce numéro de Wagon Livre, nous vous proposons aujourd'hui une petite rétrospective d'interview diffusée sur Radion au cours de l'année dernière. Et j'avais envie de vous proposer un extrait d'un entretien avec la journaliste québécoise Denise Bombardier, qui a été journaliste durant plus de 30 ans à Radio-Canada. Je l'avais rencontré à Livre-en-Vigne au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon pour son dictionnaire amoureux du Québec. Et au printemps dernier, alors qu'elle était l'invitée du club des écrivains de Bourgogne au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon, elle venait présenter Une vie sans peur et sans regret aux éditions Plon, son autobiographie. Et notamment dans cette autobiographie, Denise Bombardier revenait sur l'épisode du 2 mars 1990, c'est-à-dire le soir où, sur la deuxième chaîne française, Denise Bombardier était l'invité de l'émission littéraire de Bernard Pivot, apostrophe. Il y avait également parmi les autres invités Catherine Hermary-Vieille, Alexandre Jardin, jeune écrivain alors, et Gabriel Matzneff, qui défraye actuellement la chronique. Gabriel Matzneff présentait en 1990 dans l'émission Apostrophe « Mes amours décomposés », un livre dans lequel il racontait ses conquêtes adolescentes. Or, vous le savez, depuis quelques jours, Vanessa Springora, une jeune femme que Gabriel Matzneff a côtoyée et connue, Vanessa Springora fait paraître Consentement, un ouvrage dans lequel elle dénonce l'impunité des pédophiles qui régnaient alors en France lorsque les faits se sont produits. Gabriel Matzneff a aujourd'hui 83 ans et Vanessa Springora un peu plus de 40 ans. Alors, j'ai demandé à Denise Bombardier ce que racontait Gabriel Matzneff au cours de ce numéro d'Apostrophe le 2 mars 1990 sur Antenne 2, Denise Bombardier.
Tout simplement qu'il racontait comment il sodomisait les petites filles de 14 ans, puis les petits garçons aussi, mais enfin, c'était... et il racontait ça parce que c'était pas un roman, là. On ne parle pas d'un roman, on parle d'un journal. Et il disait, à un moment donné, le 14 mars, je vais chercher Nathalie, supposons Nathalie, je vais l'aller chercher au lycée. Elle a 15 ans, nous allons prendre un verre à la coupole, son petit cul imberbe m'attire, alors je l'amène chez moi et je la sodomise proprement. Le lendemain midi, déjeuner à l'Élysée avec d'autres écrivains, parce que vous savez que vos présidents font des déjeuners d'écrivains, ce qui est très bien. Et là, le président Mitterrand, il racontait que le président Mitterrand s'approchant de leur table, s'adresse à lui et lui dit « Cher Matzneff, continuez votre bon travail ». Or, on ne sait pas si le travail, c'est d'avoir sodomisé la petite la veille ou si ce sont ses écrits. Donc, je savais, je l'ai su tout de suite, que l'Élysée était dans l'eau chaude, là, parce qu'il voulait se dégager de cette position-là, de Matzneff. Et j'ai été, cette fois-là, c'est la seule fois, parce que moi j'ai connu le président Mitterrand à l'International Socialiste à Vancouver avant,
en 78, quelques années avant, où je l'avais interviewé, fois, c'est oui. ça.
Et alors donc, là, j'ai été convoquée, et le président Mitterrand m'a demandé, il a commencé par parler de comment vont vos amis de droite à Paris, et tout à coup, il m'a dit ce qu'il voulait que je dise, et vous pouvez le...
Il vous a dit... Mais, chère amie, vous qui êtes une observatrice affectueuse et sévère de notre pays, vous connaissez le milieu parisien obsédé par la peur de n'être jamais assez libéré et tolérant vis-à-vis des écarts de conduite douteux et choquants. La France n'est pas Matzneff, chère Denise Bombardier.
Voilà ce qu'il m'a dit. Et évidemment, ça s'est su. Et le lendemain, ils ont fait un communiqué à l'AFP. Le lendemain, le Monde choisissait son camp. Le Monde a écrit l'Élysée choisit son camp, celui de Bombardier.
Mais alors, suite effectivement à votre intervention sur le plateau d'Apostrophe, alors Jacques Lanzmann vous a décrit telle une mégère comme on n'en fait plus. Josiane Savigno, qui s'occupait du monde des livres, vous a aussi descendu en flèche, je crois, sur un...
Dans le même papier, elle a écrit un article sur lui, L'homme qui aime l'amour, et après, c'était sur mon livre, Tremblement de cœur, c'était une histoire...
Qu'elle a démolie.
Ah, Seigneur, oui.
Et puis alors, Philippe Solers, qui a dit que vous étiez une mal baisée.
Voilà, et voilà. Et d'ailleurs, Lanzmann avait ajouté que la Frigide retourne sur ses banquilles, se geler le cul. Voilà ce qu'il avait écrit dans Libération. Alors, c'était charmant, mais ce n'est pas la France que j'aime.
C'était à l'instant la journaliste québécoise Denise Bombardier. C'est un extrait d'un numéro de Wagon Livre diffusé le 15 février 2019 sur Radion. Denise Bombardier, que j'avais rencontrée à Dijon pour son autobiographie « Une vie sans peur et sans regret » qui revenait sur sa rencontre sur le plateau de l'émission littéraire d'Antenne 2 apostrophe le 2 mars 1990 avec Gabriel Matzneff qui défraye la chronique depuis quelques jours dans les médias français, mais aussi francophones. Voilà, Denise Bombardier, Une vie sans peur et sans regret, ouvrage toujours disponible aux éditions Plomb. Je vous l'avais dit en début d'émission, l'année dernière, Raymond Poulidor nous a quittés. Raymond Poulidor, 18 Paris-Nice, 18 Paris-Roubaix, 14 Tours de France, soit, s'il vous plaît, 56 000 km. Et surtout, notons un Tour de France au retentissement considérable, celui de 1964. J'avais rencontré à Sens Raymond Poulidor en 2012 et je tenais à l'inviter... à ce qu'il s'exprime sur ce Tour de France 1964 et je lui avais effectivement dit qu'il n'avait jamais échappé à la déveine qu'il avait toujours eue, malheureusement, dans son parcours de cycliste professionnel, un grand manque de chance. Raymond Poulidor.
Et bien sûr, c'est ce qui a fait ma popularité. J'étais le Français moyen qui arrivait quelque chose au moment que j'allais conclure, que j'allais gagner, top, une petite... Et là, ça a été la catastrophe. Lorsque je me suis présenté au départ à Nancy, qu'Antonin Magne m'a eu une immense plâtre qui me retenait tout le bras gauche, m'a dit « mais c'est pas possible, c'est la catastrophe, c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir prendre le départ de ce Tour de France ». Alors on a essayé de me faire un plâtre un peu plus léger, mais qui m'en serrait tout le bras gauche. Et je me souviens, la première étape, c'est l'année où Van Looy nous amenait au pied de la montagne à 45 à l'heure tous les jours, et le premier jour j'ai perdu 9 minutes. Car je ne pouvais pas tenir le guidon au contrôle de ravitaillement. Van Looy a attaqué, puis bon. 9 minutes, je ne vous dis pas le soir, la soupe à la grimace et le moral dans les chaussettes. Puis j'ai réussi à gagner une étape de montagne et à faire 3e du Tour de France. Et je crois que cette popularité est partie de là.
Alors, il y a eu aussi la popularité. C'est un terme qui est créé par Émile Besson, je crois, du journal L'Humanité.
Émile Besson.
C'est oui. En 62, ben, ça fait 50 ans maintenant, et un demi-siècle, Raymond Poulidor. Et en 63, il vous arrive quelque chose qui vous meurtrit, parce que vous allez être, à l'arrivée au Parc des Princes, vous allez être hué par la foule. Et ça, ça vous a fait mal au cœur.
Ah oui.
Alors pourquoi vous a-t-on hué?
Ben, j'avais fait un très mauvais Tour de France. J'avais fait des débuts tellement brillants en 62, pas de problème, Poulidor en 63 est le favori du Tour de France. C'était au temps du règne de Jacques Anquetil. Et j'ai fait une énorme erreur. Je crois que mon directeur sportif aurait dû m'arrêter lors de la grande étape du Grand Saint-Bernard et tout. J'ai attaqué trop loin de l'arrivée, le vent de face et tout. Et mes adversaires m'ont laissé mourir à l'avant. Et lors de l'attaque de la Forclaz, j'ai loupé ma musette de ravitaillement. Et Antonin Mann, qui était énorme, scrupuleux, qui respectait les règlements, n'a pas voulu me passer la musette en dehors du contrôle de ravitaillement. Car c'était une amende en francs, c'était pas une amende en temps, en francs seulement, mais lui c'était le règlement, et j'ai eu une petite défaillance, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fringale. Voilà, et j'ai perdu ce jour-là 9 ou 10 minutes. Et à l'arrivée, évidemment, j'ai fait 7 ou 8e du tour, une de mes plus mauvaises places, et le public m'a sifflé.
Mais c'est un peu facile de siffler un sportif.
Oui, mais c'était des sifflets de déception. Oui. C'était pas des sifflets que on peut entendre au cours d'une carrière d'un sportif. C'était des sifflets de déception. Ils étaient déçus. Et à la suite de ça, j'ai dit à Antonin Mann, vous m'engagez au Grand Prix des Nations.
Mais 50 ans après, ces sifflets, ils sont encore présents dans votre esprit ou vous les avez mis de côté?
Non seulement ils sont présents, mais j'aurais voulu qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Beaucoup plus nombreux, puisque cette popularité ne m'a pas rendu service. On ne m'a pas obligé à me battre. Par la suite, j'étais deuxième, j'étais quatrième, j'étais dixième. C'était moi le plus fort, c'était moi le meilleur. Dans les critériums, c'est moi qui amenais la foule. On me payait plus cher que les vainqueurs. Quelle jalousie s'installait au sein de mes adversaires. Et je les comprends, puisque je me souviens une fois, à l'arrivée au départ d'un critérium, il y avait Van Looy, champion du monde. Van Looy, évidemment, il était là, il était entouré, mais lorsque j'arrivais, moi, hop, on quittait Van Looy pour venir me voir, et bravo Poupou, c'est toi le plus fort, c'est toi le meilleur, ainsi de suite. Alors j'en reviens à la suite de 63, et j'ai dit Antonin Mann, vous m'engagez au Grand Prix des Nations. Alors je ne vous dis pas, il a levé les bras au ciel, puisque le Grand Prix des Nations, c'est une épreuve contre la montre individuelle. 100 km, toute la vallée de Chevreuil, c'est énorme. C'était une des plus belles courses et tout. Et j'étais quelconque contre la montre, j'étais pas bon. Alors, sur mon insistance, il m'a engagé au Grand Prix des Nations. Je me suis entraîné comme un forcené et j'ai dominé ce Grand Prix des Nations. D'ailleurs, le vainqueur de l'année précédente, je crois qu'il était à 4 minutes. Sur les 100 km, je l'avais mis 4 minutes, le troisième à 5 minutes, ainsi de suite. À l'arrivée, Antonin Mann a ouvert les grands yeux, puisque c'était un homme assez sensible, mais des félicitations. Il n'aimait pas trop féliciter. Il m'a regardé, il a levé ses grands sourcils. Vous alors?
Alors, il faut absolument que nous parlions du Tour de France 1964. J'allais dire, là, c'est le choc, c'est le duel très attendu entre le Normand et l'homme de la Creuse. Le Normand, c'est Jacques Anquetil, qui est votre ennemi juré à l'époque, mais qui deviendrait un grand ami. Et Poulidor, le Creusois.
Ah, ce tour de France 64, je crois que si on commence à l'évoquer, il y en a pour 2 heures.
Oui, alors.
Il y en a pour 2 heures. Oui. C'est énorme ce Tour de France, ce que j'ai eu, ce qui s'est passé. Malchance et tout. Premier temps, Antonin Mann, il m'avait dit, vous allez reconnaître le Puy-de-Dôme. Vous savez, en ce moment-là, notre gagne-pain, c'était les critériums. 3-4 jours avant le départ du Tour, on faisait encore des critériums sur piste. Puisque ce qu'on gagnait en 2 heures, c'était notre mensualité pratiquement. On avait des petits salaires. Et 2-3 jours avant le Tour, je faisais des critériums et je n'ai pas reconnu le Puy-de-Dôme. Et j'avais menti à Antonin Mann, je lui avais dit, j'ai reconnu le Puy-de-Dôme, où normalement c'était la plaque tournante peut-être de ce Tour de France. Mais quand on m'a dit sur ce Tour de France 64 que Anquetil m'avait bluffé là, le Puy-de-Dôme, c'est pas du tout. C'est pas du tout vrai, il m'a pas du tout bluffé. Moi j'avais l'intention de gagner l'étape du Puy-de-Dôme. et je me suis battu toute la journée, j'ai contrôlé la course. Et lorsque Bahamontès et Jiménez ont attaqué, j'ai pas pu les suivre. Si Anquetil a coincé dans le Puy-de-Dôme, c'est qu'il était plus fatigué que moi. Mais moi, j'étais pas plus brillant que lui. Il m'a ni bluffé et c'était pas là que j'ai perdu le Puy-de-Dôme. Si je vous raconte tous les péripéties de ce Tour de France, c'est énorme. Premier jour, arrivé à Lisieux, je perds 40 secondes, alors que je termine à 2,50 m d'Anquetil. Il y a une chute qui se produit à 1,1 km de l'arrivée. Je dis bien 1,1 km, puisque le dernier kilomètre était neutralisé. Il y a une chute qui se produit, moi je ne peux pas passer, je suis bloqué, je ne suis pas tombé, mais bloqué au milieu du peloton, arrêté. Et Anquetil, qui avait l'habitude de courir souvent en queue de peloton, est passé sur le trottoir et tout, je l'ai vu passer, et je termine à 2,50 m de lui. Mais à ce moment-là, les temps étaient pris sur la ligne d'arrivée, le premier coureur, et lorsqu'il n'y avait pas de cassure, tout le monde était classé dans le même temps. C'est-à-dire Anquetil n'était pas dans la cassure, moi j'étais à 1,50 m d'Anquetil, mais il y avait une cassure. Alors comme le peloton était étendu sur 500 mètres et tout, arrivé en côte, j'ai été classé à 45 secondes d'Anquetil, premier jour. Il y a eu l'étape de Monaco où je me suis trompé d'un tour. Il y avait une minute de bonification. J'ai sprinté un tour avant, mais ça, c'est une faute personnelle, un tour avant l'arrivée. Et Anquetil a pris une minute de bonification. Mais pour moi, où j'ai perdu le Tour de France, je le répète tous les jours, même je l'ai écrit partout, c'est l'étape Perera de Bayonne contre la Mont, 70 km contre la Mont. À 25-30 km de l'arrivée, j'étais pratiquement... J'avais fait le meilleur temps qu'Anquetil. Et j'ai victime d'une crevaison. J'appelle la voiture. Antonin Magne dans la précipitation, grand coup de frein. Mon mécanicien dans le fossé qui se fout d'une cheville. C'est moi qui ai été obligé d'aller chercher mon vélo dans le fossé. J'ai perdu peut-être 45 secondes. Et Anquetil me bat de quelques secondes avec les bonifications et autres. Et le gâteau de l'affaire, c'est l'Envalira. Départ d'Andorre. Normalement, Anquetil était hors course et tout. Et en haut d'Envalira, les Espagnols ont attaqué au départ. Et Anquetil était à 6-7 minutes en haut de l'Envalira. Et ce jour-là, il y avait un voyant qui avait annoncé l'abandon et éventuellement la mort d'Anquetil. Alors Anquetil, c'était un homme de défi. Lorsqu'il a sauvé, c'est le brouillard. Le brouillard et l'équipe Pelfort. L'équipe de Georges Roussard qui était leader. Laurent Anquetil, qui était un homme de défi, il était à l'agonie. Il a eu des aides dans la montée, enfin bref. Et dans la descente, on ne voyait pas à 2 mètres, tous les journalistes sont restés avec lui. Il a dit, mais le voyant a raison, il prend des risques énormes. Et il est descendu le col de l'Envalira, les 20 kilomètres, avec les phares des voitures. Et il nous a repris 5-6 minutes, il a rejoint toute l'équipe Pelfort, et qui ont roulé derrière moi. Et à l'arrivée, à 25 km d'arrivée, victime d'un bris de dérailleur et tout, j'ai perdu 3 minutes. Vous vous rendez compte ? 3 minutes. Le lendemain, j'ai gagné l'étape. J'ai refait un peu, mais j'ai perdu, voilà.
En 1971, vous êtes sur le Paris-Roubaix et vous recevez la visite de René Fallet, accompagné d'un chanteur moustachu, Georges Brassens. Vous vous souvenez de cette rencontre ?
Ah, bien sûr, au départ. D'ailleurs, c'était des amoureux du vélo. Il y avait Fallet, il y avait Georges Brassens, il y avait Audiard.
Et Antoine Blondel.
Et Antoine Blondel, l'inévitable Antoine Blondel, qui a fait des chroniques merveilleuses sur l'équipe pendant de nombreuses années.
C'était la voix de Raymond Poulidor que j'avais rencontré et enregistré à Sens en 2012, Poulidor qui effectivement revient sur ce mémorable Tour de France 1964. La rétrospective 2019 de Wagon Livre reprendra dans une poignée de minutes. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, le temps pour nous de marquer un nouvel intermède musical.
De trop ou de s'ennuyer un instant. Elle représailles, elle a peur pour son petit frère, elle a peur, peur pour son derrière. Sombrer, je t'aurai à grands coups de pioche si tu ne laisses pas tomber. Aisselle. Elle panique. Fous-moi la paix, ma vieille caboche. Je suis rincée, tu ne me fous pas la pétoche et je ne veux plus t'écouter. Fous-moi la paix ou je te taloche. Je me sens toute démantelée. Sur moi tes questions ricochent. Inutile de te fatiguer.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Poursuivons notre rétrospective des grands moments de l'année 2019 avec un entretien que j'avais enregistré encore à Dijon, puisque l'auteur était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Il s'agit de Emmanuel de Varesquiel. Emmanuel de Varesquiel, qui est historien, qui est spécialiste de la Révolution française, biographe de Talleyrand et de Fouché, et qui venait présenter un ouvrage intitulé « Le temps de s'en apercevoir » aux éditions de l'Iconoclaste, un essai sous forme de récit, essai d'ailleurs qui avait obtenu le prix des deux magots en 2019. Et dans cet ouvrage, Emmanuel de Varesquiel revenait notamment sur un déjeuner auquel il avait participé à l'Élysée à l'invitation du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, et il raconte ses impressions sur le président Nicolas Sarkozy. Emmanuel de Varesquiel, enregistré en mars 2019.
Oui, c'est un petit épisode, je raconte des petits épisodes comme ça, soit des observations, soit des choses que j'ai vécues. Et parmi ces épisodes, cette invitation qui avait été la mienne, que j'avais eue à un déjeuner d'historien à l'Élysée, je ne parle pas du tout de la politique de notre ancien président de la République, mais je parle plus de l'homme. Quand on travaille sur des hommes de pouvoir qui sont morts il y a deux siècles, ce qui a été très souvent mon cas, que ce soit le duc de Richelieu, que ce soit Talleyrand, que ce soit Fouché, beaucoup d'autres, on ne peut pas ne pas être fasciné par l'exercice du pouvoir contemporain et le voir, si vous voulez, de façon vivante, en acte, à l'occasion de ce moment que j'ai pu passer à l'Élysée. J'y suis allé un peu en anthropologue. Et ce qui m'a le plus fasciné, au fond, c'était un déjeuner un peu organisé dans les mois qui ont précédé la campagne électorale de 2012. Il y a eu des déjeuners, je crois, autour de cinéastes, d'historiens, de romanciers, etc., qui tentaient à prouver que le président de la République était sensible aux questions intellectuelles, littéraires ou historiques. Et au fond, notre président nous a essentiellement parlé de lui-même. Ce qui m'a fasciné, c'est cet enfermement. Est-ce qu'il est évitable, je ne sais pas, de l'homme de pouvoir dans un univers, non pas tant imaginaire, mais dans un univers en tout cas clos, quelle que soit d'ailleurs la possibilité d'exercer son hubris aujourd'hui dans un monde qui est très mondialisé, où les, les ressorts du pouvoir, en tout cas du pouvoir national, existent de moins en moins. Mais cet enfermement mental m'avait... on était, il faut dire, à une période très particulière, qui était celle de...
La guerre en Libye.
De la victoire, entre guillemets, parce que cette victoire s'est avérée, au bout du compte, peut-être une demi-défaite, de la victoire en Libye sur Gaddafi, où nous, la France était intervenue au premier chef avec, avec les Américains. Et...
Il se prend pour le nouveau Laurence.
Il se prenait un peu pour Laurence d'Arabie.
Vous l'écrivez, d'ailleurs.
Oui, Nicolas Sarkozy se rendait à Tripoli, je crois, dans les jours suivants.
Mais vous êtes cruel, pardonnez-moi, je vous interromps, Emmanuel Devin. Vous écrivez, en parlant de Nicolas Sarkozy, et donc par rapport à Laurence d'Arabie, le connaît-il et le contexte de la révolte arabe à la fin de la Grande Guerre et le désaveu des puissances? A-t-il lu les sept piliers de la sagesse et la matrice? Je pense à tout cela en silence, sans me faire beaucoup d'illusions. De Sarkozy encore, vous écrivez. Il n'est pas à l'aise non plus lorsqu'il parle littérature et culture en général. Au fond, on sent bien que ça ne l'intéresse pas vraiment. C'est cruel, c'est des petits coups de griffe quand même.
Oui, ce sont vraiment très bienveillants.
Alors la fin, attendez, là, c'est merveilleux.
On va rebondir sur quelque chose de plus général, oui.
Le service était impeccable. Les assiettes en porcelaine bleue de Sèvres un peu clinquantes, les boiseries crème et or de la salle à manger sublimes, une petite visite du rez-de-chaussée et nous sommes sortis par le grand portail de la rue du Faubourg Saint-Honoré, le portail des invités du président. C'était un déjeuner informel. Nous sommes tenus de rester discrets sur certaines choses. Je rentre à pied jusqu'à la rue Jacob. La vie continue.
Oui, vous savez, je suis historien, donc je produis des récits, donc je ne peux pas m'empêcher
d'avoir
ce goût du détail. Mais la réflexion que cela peut susciter, c'est cette question de rapport des générations de pouvoir avec la culture. Avec cet univers-là, d'ailleurs, de sa nécessité aussi. Mais j'ai eu ce sentiment que j'avais un peu, de façon diffuse, mais beaucoup plus charnellement après cette visite à Nicolas Sarkozy, c'est qu'il incarne la première génération, une nouvelle génération d'hommes de pouvoir, une génération qui est celle des ruptures culturelles. Si on compare Sarkozy au général de Gaulle et même à Pompidou et à Mitterrand, qui étaient profondément des hommes de culture, on est là dans un autre univers. Et précisément, on est dans un univers où le temps est différent. Ce que je disais tout à l'heure, on est dans un univers qui n'est plus celui des continuités temporelles, des héritages, mais qui est plus celui des ruptures, des discontinuités, du présent, de l'immédiat, de la vitesse. Ce que donne le portable aussi, ce que donnent les moyens de communication contemporains. Voilà, ça m'a fasciné.
Et le mépris aussi de Nicolas Sarkozy à l'égard de Jacques Chirac, qu'il considère comme un crétin.
Alors,
enfin, vous laissez entendre que Sarkozy...
Je ne le dis pas comme ça, oui. Mais,
oui.
On sentait un léger contentieux. Oui. Oui.
L'historien Emmanuel de Varesquiel, à l'instant, sur Radion, à bord de Wagon Livre, Emmanuel de Varesquiel, rencontré en mars 2019 pour son essai sous forme de récit, Le temps de s'en apercevoir, aux éditions de l'Iconoclaste. Je vous propose cette fois-ci de réentendre un extrait d'entretien avec Robert Hennel. Robert Hennel vit entre Paris et Vézelay. Sa carrière a été consacrée à la communication et aux médias. Avec son deuxième roman intitulé « Nous, les ultras », paru aux éditions Les Trois Colonnes, Robert Hennel revenait sur la définition de ce terme d'ultra, terme apparu dans les médias au moment de la guerre d'Algérie. Mais c'est aussi un livre qui dénonce un certain nombre d'impostures de notre époque contemporaine, un livre qui rejette la compromission, qui effectivement dénonce aussi une intelligentsia qui ne sait que cultiver sa fatuité à longueur de tribunes et d'interviews dans les médias et être ultra. Robert Hennel l'expliquait alors dans l'entretien, ce n'est pas qu'un trait de caractère, être ultra, c'est ne pas être bien pensant. Et Robert Hennel disait qu'effectivement, aujourd'hui, il faut être correct à chaque instant, et il trouvait cela d'une tristesse, d'une banalité et d'une médiocrité hallucinante. Et dans son roman intitulé, je le rappelle, « Nous les ultras », avec un point d'exclamation, Robert Hennel a des mots d'ailleurs assez durs sur Vézelay, pas tellement sur le joli village de Vézelay dans l'Yonne classé au patrimoine mondial de l'humanité, mais surtout sur la médiocrité des vésulien, c'est-à-dire de ses habitants. Robert Hennel.
Ça a l'air de vous choquer.
C'est pas que je suis choqué, je suis surpris de lire autre chose que des propos dithyrambiques sur Vézelay.
Mais je crois que les propos dithyrambiques sur Vézelay, c'est le rôle des touristes ou des gens de passage pour quelque temps. Et là, ce qu'il y a, c'est quand on a vécu à Vézelay, qui est très attachant. Malgré cela, c'est un petit monde qui a ses rites, ses rituels. Ils sont comme je les ai perçus moi-même, mais ils sont comme cela. C'est en quelque sorte, une chose qui est intangible. À Vézelay, ça a toujours été comme cela, même au Moyen-Âge, quand vous aviez les bourgeois et le petit peuple qui essayait de se révolter contre les abbés, etc. Ça n'a pas changé. C'est exactement le même processus, les mêmes représentations. Et bien sûr, il n'y a plus, comme c'est écrit, de révolte de la populace ou de la population, mais les divergences, les strates existent encore.
D'ailleurs, ce passage sur Vézelay, où s'installe votre héros et où vous-même, oui, Robert Hennel, et votre épouse Anne-Marie êtes installés depuis de nombreuses années maintenant, je lis ce paragraphe. « Les itinéraires qui sont les nôtres ne mènent désormais nulle part. Avant, bien avant, nous allions quelque part avec certitude. Chaque destin était associé à un ailleurs, à une foi, à une vision qui était plus importante que nos vies, car c'était elle qui lui donnait un sens. Le plus désespérant et révoltant, c'est que plus personne, à part nous les ultras, ne le sait et ne ressent ce vide. »
Oui. Oui, c'est tout à fait mon ressenti, parce que à Vézelay maintenant, on peut aussi se demander de façon légitime pourquoi certaines personnes sont à Vézelay, parce qu'elles ont une vision, une façon d'être qui est plutôt germano-pratine ou bobo. Et je pense qu'ils pourraient exercer leur talent s'ils en ont, enfin, leur petit talent partout ailleurs plutôt qu'à Vézelay, sans que la cité ne s'en porte plus mal.
J'isole une phrase de votre roman et je vous la soumets à vous, Robert Hennel. Chaque jour, je me pose un peu plus la question de savoir pourquoi je suis ici et ce que je fais dans ce lieu. Alors, vous, Robert, pourquoi êtes-vous à Vézelay? Et que faites-vous dans ce lieu?
Eh bien, moi, j'étais comme beaucoup de gens dont j'ai parlé, c'est-à-dire que je pensais que dans ce lieu, les choses, les hommes, les femmes seraient certainement différentes, parce que le lieu est quand même très différent de ce qu'on connaît habituellement dans les villes, dans les cités, dans les territoires. Et puis, ce n'est pas le cas. C'est même pire, certainement, que dans d'autres... Que dans d'autres villages, que dans d'autres cités. Voilà. Et donc, c'est la déception, en définitive. Quand on a attendu, quand on a une impression qu'il allait se passer quelque chose, ou que tout était réuni pour nous faire connaître autre chose, et qu'il ne se passe rien, je veux dire, c'est difficile, c'est dur.
À l'instant, c'était Robert Hennel, un extrait d'une émission diffusée à l'automne dernier dans Wagon Livre sur Radion. Robert Hennel qui signait son deuxième roman intitulé « Nous les Ultras », roman disponible aux éditions Les Trois Colonnes. D'ailleurs, Robert Hennel était tout à fait d'accord avec moi lorsque, à l'issue de notre entretien, j'ai choisi de partager avec lui cette citation de George Orwell. « Dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. » Merci d'être avec nous, c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque une nouvelle virgule musicale et nous nous retrouvons ensuite avec un autre extrait d'entretien. Nous réentendrons l'écrivain et romancier Jean-Marie Laclaftine.
I share with you my story.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci d'être avec nous. La suite de la rétrospective des grands moments de l'année 2019 de Wagon Livre avec Jean-Marie Laclaftine. Jean-Marie Laclaftine, romancier, nouvelliste, membre du comité de lecture de Gallimard. Je l'avais rencontré le 27 mai 2019 à Dijon, alors qu'il était l'invité du club des écrivains de Bourgogne. Et Jean-Marie Laclaftine était venu présenter un récit paru chez Gallimard, récit intitulé « Une amie de la famille ». En effet, dans ce texte, Jean-Marie Laclaftine revient sur un événement tragique qui a brisé sa famille, le 1er novembre 1968 à Biarritz, moment terrible au cours duquel sa sœur aînée, Annie, est emportée par une vague fatale et mortelle. L'auteur n'avait que 15 ans et une amie de la famille revient sur cette épreuve qui a bouleversé la vie de l'auteur et également celle de ses parents. Jean-Marie Laclaftine, rencontré à Dijon le 27 mai 2019.
Oui, c'est un événement majeur dans la vie familiale. Et ce jour-là, nous étions allés chez ma grand-mère à Bayonne et nous sommes partis nous promener sur les rochers qui sont sous le phare de Biarritz. Au-dessus de la chambre d'amour, à Anglette. Et nous étions quatre, mon frère aîné Bernard, ma sœur Annie, qui avait 20 ans, donc 50 plus que moi, et puis son petit ami Gilles. Et nous sommes allés sur ces rochers, et la mer apparemment n'était pas si mauvaise, mais enfin il y a eu une vague plus importante que les autres qui nous a emporté, en tout cas qui a emporté Annie et Gilles. Bernard et moi avons réussi à nous accrocher au rocher, mais et Gilles a été sauvé, mais Annie n'en est pas revenue.
Et en fin de compte, la disparition de cette grande sœur, vous y revenez. Là, c'est une vague mémorielle qui revient 50 ans après. Et alors, en plus, il y a une formule tout à fait surprenante dans votre roman. Vous dites que finalement, votre naissance, votre véritable naissance, elle date du 1er novembre 1968, jour de ce drame qui a bouleversé votre famille, mais qui l'a bouleversé ensuite dans le silence.
Oui. Le besoin que j'ai eu d'écrire ce livre, c'est d'abord de sortir de ce silence total, enfin pratiquement total de 50 ans. Un silence très mystérieux, presque comme un sortilège qui a paralysé notre famille, enfin qui l'a figé en tout cas dans un silence absolu, parce qu'il était trop douloureux d'évoquer la figure d'Annie, d'évoquer cet événement, cette perte. Et donc, 50 ans plus tard, j'ai été apparemment délivré du sortilège. Je me suis dit qu'il fallait que je le raconte. Alors, ça n'était pas simple, parce que, en fait, je me suis rendu compte que si nous avions respecté ce silence pendant si longtemps, c'était parce que nous ne supportions pas la souffrance de nos parents. Quand je dis nous, ce sont mes frères et moi. On ne pouvait pas en parler parce que ça remuait des choses beaucoup trop déchirantes pour eux. Et donc, je dis dans le livre à un moment que Annie n'était pas du tout oubliée. Nous ne l'avons pas effacée, elle. Chacun se souvenait d'elle avec beaucoup d'amour. Mais il était impossible d'en parler. C'était comme si son fantôme se promenait parmi nous. Et à chaque fois que l'un d'entre nous s'apprêtait à parler d'elle, le fantôme s'approchait et posait sa main sur notre bouche.
Mais Jean-Marie Laclaftine, le drame survient 1er novembre 68. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. Et cette date qui revient, qui est fêtée, qui est jour férié en France... Ça devait être quelque chose, justement, un cycle de douleur qui revenait, en plus, avec cette date bien particulière. Parce que vous parlez de la mémoire, on va y revenir sur la mémoire, les dates, l'imprécision que l'on a des choses, des êtres, de leurs propos, de différentes choses. Vous êtes un athlète de l'amnésie, mais on y reviendra.
Oui.
Alors, ce 1er novembre dans la famille.
Le 1er novembre, d'autant plus que mes parents étaient très catholiques, et ça aussi on y reviendra parce que c'est un élément important de notre histoire. Et chaque 1er novembre, mes parents allaient à Bayonne, mais ils y allaient seuls en fait. Moi je n'y suis jamais allé avec eux.
Et vous n'étiez pas convié?
Si, je pense que nous étions conviés. Vous voyez, dans ce « je pense », il y a déjà quelque chose d'assez vertigineux, parce que comment puis-je avoir oublié ça? Mais c'est pourtant vrai, c'est-à-dire que ces événements sont tellement puissants que j'ai du mal et que je ne suis pas le seul. Je m'aperçois, je reçois beaucoup de courriers à cause de ce livre et je m'aperçois que c'est très partagé en fait par beaucoup de gens, des gens qui ont vécu des pertes très, très graves et très importantes. Ils connaissent la qualité très particulière de ce silence. Et tout à l'heure, vous me posiez la question à laquelle je n'ai pas répondu d'ailleurs sur la naissance à 15 ans. Dans le livre, oui, au début du livre, je dis « je suis né à 15 ans » parce que, en effet, l'expérience de la perte, quand elle est aussi dramatique, aussi bouleversante, des parents qui perdent un enfant de 20 ans, c'est absolument atroce. Et quand c'est à ce point traumatisant, disons, on passe de l'autre côté du miroir. Je pense qu'on devient vraiment quelqu'un d'autre. Moi, j'ai toujours été absolument persuadé que jamais je n'aurais écrit, jamais je ne serais devenu écrivain. J'avais J'ai toujours aimé la littérature, même avant la mort de ma sœur, mais jamais je n'aurais imaginé aller vers l'écriture. J'aurais sans doute connu un destin beaucoup plus conforme aux vœux de mes parents, aux habitudes de la famille. J'aurais un peu grimpé dans l'échelle sociale en devenant professeur, par exemple. Voilà. Et ça n'a plus été possible à partir du moment où j'avais eu ce contact très, très direct et très violent avec la mort.
C'était le romancier Jean-Marie Laclaftine à l'instant à notre micro, rencontré le 27 mai 2019 à Dijon, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne pour y présenter son dernier récit paru chez Gallimard, Une amie de la famille. C'est la fin de ce premier numéro de Wagon Livre de l'année 2020. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez manqué le début de cette émission, vous la retrouvez dans son intégralité sur le site d'archives de votre émission littéraire via Internet. C'est très simple, vous pianotez www.yannickpetit.fr. Et puis bien sûr, vous y retrouvez également les titres et les références des ouvrages dont il a été question dans l'émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 11 janvier à 11h, avec un entretien que j'ai enregistré l'hiver dernier avec Olivier Rollin pour Extérieur Monde, un ouvrage disponible aux éditions Gallimard. En attendant, je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine. Merci de votre écoute. Au revoir et à samedi prochain, toujours sur Radion.